la circonscription de Granby. La police de Québec a ouvert une enquête à propos de possibles bombes artisanales qui auraient explosé dans le secteur de Beauport. Un premier appel qui est arrivé à 10 h, puis 2 ce matin. Des personnes ont retrouvé une bouteille avec du chlore autour après avoir observé un nuage blanc. Tout porte à croire que ces personnes ont été la cible de bombes artisanales au chlore.
Là-dessus, vous avez été plusieurs à commenter aussi par texto parce que moi, je connaissais pas ça. J'ai l'impression que j'ai pas été très délinquante dans les essais scientifiques non désirés. Là. Moi, c'était pas mal le Pepsi avec le Mentos. Là, qui... c'est là que c'est allé plus loin. Dans la nouvelle que Matt vient de nous dire à Beauport, les bombes artisanales avec le chlore, ben, y en a qui avaient certains commentaires comme quoi, ben, oui, ça faisait partie des petites trip de jeunesse, là, des stupidités qui ne devraient pas avoir lieu pour certains. Puis il y en a d'autres qui nous rapportaient que ça peut être une façon d'enlever des preuves après un crime dans une voiture, vu que l'odeur, le chimique, le produit toxique là, prend toute la place. On avait déjà cédulé une entrevue avec l'exceptionnel Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. Il est au bout du fil. Bonjour, Roger.
Bonjour, messieurs, dames.
Écoute, on n'a pas le choix de te demander ce que tu en penses pendant qu'on t'a au bout du fil sur ces bombes de chlore-là. T'as-tu déjà entendu parler de ça? C'est-tu une affaire de gamins écervelés ou c'est une affaire de crime organisé?
Le haut chlore, c'est souvent plus une affaire dangereuse et simple, chimiquement à faire, mais qui est extrêmement dangereuse parce que ça crée un gaz, puis c'est pas une bonne idée. Ça peut avoir certaines utilités, comme tu l'as décrit. En passant, Pascal, je suis vraiment content de savoir que tu n'as pas d'expérience là-dedans. Là. La majorité des citoyens devraient être de même, moi aussi, d'ailleurs. Là.
Je pense que c'est
mais,
ça, pareil.
En ce moment, ça peut être des expériences pour développer des produits, oui, ou des erreurs, mais c'est pour ça qu'il va y avoir enquête là-dessus pour arriver à le démontrer avec exactitude.
Mais dans ton passé, toi, d'ex-enquêteur, t'avais-tu souvent vu ça dans le crime organisé ou...
Au clair, non, pas souvent.
Okay.
On a entendu toutes sortes de patentes dans certains gros vols, par exemple. Des experts, quand il y a eu des vols d'ordinateurs, des vols de bitcoin, toutes sortes de patentes, ils font des nettoyages par après au clair. Mais il faut que tu le fasses à la méthode Monsieur Net. Là. Tu vaporises, tu nettoies puis tu essuies. Fait que c'est pas cette façon-là de faire. Cette façon-là de faire crée un gaz toxique qui est extrêmement dangereux à mes yeux pour ceux qui l'utilisent.
Puis que c'est pas contrôlé, puis finalement, c'est d'une
non,
stupidité.
Exactement. C'est pour ça que c'est le genre de patente, là, j'ai envie de dire. Si tu veux devenir un bon chimiste, là, secondaire 3, secondaire 4, là, écoute donc ce que les profs vont te dire à l'école. Ils vont t'en donner des règles, des méthodes de base entre les acides et les bases, comment les traiter, parce que quand tu les mélanges, ils deviennent explosifs dans certains cas.
Puis mets donc à profit ton intelligence pour la bonne cause. Hey Roger, sous un autre angle,
oui.
Il y a la crise de méthamphétamine avec le coût de la vie. Ben, les consommateurs, les gens qui ont des addictions se retournent vers des drogues qui coûtent beaucoup moins cher. C'est le cas de la meth. Ça aurait la cote dans les rues de Québec. C'est un article dans le Journal de Québec aujourd'hui. On parle de nombre de consommateurs qui est en hausse depuis 2 ans. Ce qui a attiré l'attention de certaines personnes, et je pense que Yannick Marceau en a fait aussi une envolée lyrique ce matin, c'est quand on a appris que les pipes à Crystal Meth étaient distribuées dans les rues à ceux qui ont des dépendances, à des personnes en situation d'itinérance. Ça fait partie de certaines façons de faire pour la maison Dauphine, entre autres, et on disait que ça avait quadruplé là, les commandes mensuelles de pipes de verre qui étaient destinées à cette consommation-là. Il y en a qui se posent des questions à se dire, ben OK, on comprend pour les seringues, parce qu'il y a un enjeu de santé publique, de sécurité aussi, mais de distribuer des pipes pour la consommation de drogues autres que ce qui pourrait causer un enjeu de santé. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Comment tu as vécu ça sur le terrain?
Ah, pour vrai, moi, je suis vraiment d'accord avec vous là-dessus. Je me suis inscrit en faux très souvent par rapport à ces organismes-là. Je suis capable d'être tolérant et de comprendre certaines affaires. Tu l'as dit pour les seringues. On ne voulait pas que les seringues traînent partout. Les seringues, on s'est mis à rendre ça contrôlé. Le programme de méthadone, même si au début, je n'étais pas 100% pour ça, on me l'a bien expliqué. Les médecins qui travaillaient sur place m'ont fait comprendre l'importance. Fait que si tomber sur la méthadone, c'est une chose. Mais là, ce qui m'agace, puis ça m'agace vraiment, là, je te le dis, on lui fournit une pipe parce qu'ils ne sont pas capables de consommer le crack autrement, qu'on est capable de consommer leur méthamphétamine autrement. Je décroche, là. Je le sais que je comprends qu'on veut leur offrir, en leur disant... Ils vont quand même le faire. On peut-tu leur offrir un milieu contrôlé? On peut-tu leur offrir un environnement sécuritaire pour pas les retrouver dans la rue un peu partout puis les avoir qui meurent à gauche, à droite puis qui font des essais puis qui se contaminent entre eux? Je le comprends, mais tabarnouche que j'aimerais travailler sa prévention autrement que travailler sur ça parce que là, on leur facilite les petites choses. Puis la partie, Pascal, puis que je vais vous mettre en garde, regardez ce qu'ils ont fait à Vancouver ces dernières années. Ils avaient décriminalisé là, fortement Vancouver en disant 2,5 grammes de n'importe quel produit, on ouvre la valve. Janvier 2026, ils viennent de resserrer ça. Ça a fait une hausse faramineuse de consommation. Problématique encore plus accrue là-bas à Vancouver. Là, ils resserrent la vis. Alors, ils sont les premiers villes, première ville au Canada à resserrer la vis. C'est pour ça que des fois, je me dis, ils vont devenir plus sévères que les autres. Ils ont loosé, là, puis ils vont devenir plus sévères. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est difficile d'atteindre le point d'équilibre, mais il faut vraiment travailler en prévention sur nos consommateurs. La consommation, c'est une question d'émotion. Si tu n'es pas capable de gérer ça, ben, tu consommes alcool, drogue, jeu, nomme-moi ce que tu voudras. Même le sexe rentre là-dedans, là, tu sais, les addictions à la porno. C'est une gestion d'émotion. Puis c'est pour ça que moi, je trouve ça. Moi, au contraire, je créerais des inconvénients au lieu de créer des avantages à le faire. Mais au-dessus là, certains pensent, puis ils n'ont pas tort sur une partie. Ils disent, on pourrait mettre ces centres-là dans des centres éloignés de la région de Québec. Ils n'ont même pas de moyens de transport pour y aller. Ils ne se payeraient pas le transport. Ils traîneraient partout dans les rues entre-temps. On aime mieux les garder dans un environnement contrôlé puis les aider à la place. Mais après, j'ai envie de dire, il faut vraiment les aider à essayer de sortir de là. Mais si tu leur fournis le matériel nécessaire, ben d'après moi, tu vas dans le même sens, que tu les aides encore plus.
Puis il y a le spectre des vendeurs aussi, parce que veux, veux pas, ça a augmenté la consommation, parce qu'elle est de plus en plus
Oui.
disponible. Pas, je veux pas en termes, je veux pas utiliser le terme encourager, mais faciliter hein, dans sa consommation avec la distribution des pipes. Ben, eux, les revendeurs, puis ceux qui produisent la méthamphétamine sont juste contents, là. Ils en produisent encore plus de disponibles sur le marché. Ça peut peut-être créer aussi un effet incitatif.
Tout à fait. Tu as deux courants de pensée là-dessus, puis même dans les centres de réhabilitation puis de redressement, ils ont pour leur dire, on ne devrait pas faire ça, puis d'autres sont pros en le disant oui. C'est pour ça que c'est très dur d'avoir de la vraie information puis d'avoir ton vrai expert. Moi, j'ai envie de te dire, ça fait des années que je suis découragé de ça, dans le sens que quand on a travaillé Gricot ensemble les premières fois, là, puis que j'ai, de 5 fois, je suis venu travailler à Québec sur des points de vente, j'étais découragé de voir que le premier du mois, à quel point le chèque passait en fumée dans les minutes qui suivaient. C'était décourageant. Je te dis, les 24-48 heures qui suivent, moi, je disais, mais pourquoi on ne contrôle pas ce montant d'argent-là? On va leur donner. On va leur donner en logement, on va leur donner en nourriture, on va leur donner autrement. Les gars m'ont dit, Roger, c'est pas de tes affaires, c'est de la, tu gères la sécurité, tu gères pas ça. Oui, mais finalement, on va le récupérer dans les journées qui viennent après. Parce que tantôt, ils vont commettre des petits larcins, ils vont faire d'autres crimes. Moi, je pense qu'on devrait aider ces gens-là. Mais ils sont tellement addicts que là, on est dans une problématique. Puis là, on se fait dire, ah, ils ont des droits, ces gens-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le chèque. Là, je prends une petite pause, j'ai envie de dire, OK, je peux-tu faire ce que je veux avec mon argent, moi aussi, décider à qui on va donner comme société, là?
En tant que
Tu sais, là,
contribuable.
c'est la partie qui me gosse un petit peu, là. Je te cacherai pas, là. Mais là, à cette heure, je suis rendu citoyen, mais je pense que j'essaie de partager. Je veux que les gens soient tolérants, c'est vrai, là. Mais il y a une limite dans ça, là. Je pense qu'on devrait savoir où on met notre argent puis l'investir pour ceux qui veulent s'en sortir et non aider ceux qui veulent continuer à être des meilleurs consommateurs.
Puis clairement, on t'entend dans ta limite qui a été atteinte par rapport à la distribution de pipes pour prendre le cristal meth ou la méthamphétamine pour les consommateurs dans la rue en ce moment. On parle avec Roger Ferland, qui est ex-enquêteur au SPVQ. Tu parlais de statistiques pour Vancouver. Je vais en nommer deux, trois là, rapidement, mais je l'ai tapé pendant qu'on jasait. Environ 12 000 utilisateurs de drogue par voie intraveineuse, dont plus de 4 500 résidents directement dans le quartier du Downtown Eastside. Là, c'est là où on en parle souvent, qu'il y a bien des gens là, intoxiqués qui ont l'air de zombies pour beaucoup, là. Les drogues les plus fréquemment consommées. Crack à 86 %. Hey, c'est raide, là. Cocaïne, 69 %. Là-dedans, tu peux avoir du fentanyl, tu peux avoir une coupe d'affaires. Cannabis à 62 %. Puis les opioïdes aussi. Fait qu'effectivement, ils ont resserré la vis depuis qu'ils l'avaient loussé du côté de Vancouver. Ils se sont dit, ouais, non, peut-être qu'on n'a pas fait la bonne affaire. Alors, des fois, il faut regarder ailleurs, mais pas si loin que ça. En tant que mairie, là, puis en tant que ville, faut peut-être se baser sur des choses pas si loin de nous qui se sont passé. Roger aussi, tragiquement, c'est deux fusillades en 8 heures à Toronto. Une fusillade qui a fait 2 morts, 4 blessés pendant un festival samedi, puis deuxième fusillade dans le port de Toronto. Ça, c'était hier. Après ça, on vient d'apprendre que dans le Maine, il vient d'avoir un autre attentat. Pourquoi c'est aussi important en termes de tragédie en ce moment?
En fait, chez nos jeunes, on a amené une certaine culture de la violence en ce moment qui est rendue presque normale, banalisée.
Tu penses que c'est ça?
Toronto
Oui.
est décourageant, là, Pascal. Toronto, les armes à feu, les gangs, les règlements de compte. Je suis quand même content que ce soit pas un tueur de masse encore là. C'est juste des gens qui ont débarqué puis qu'ils se sont empris entre eux autres. Mais qu'est-ce qu'ils font avec des armes à feu en circulation? Ils vont veiller dans les bars avec des armes. Puis tu vois, ça crée une stupeur et une inquiétude chez tous les citoyens. Les gens-là étaient en fête, là. C'était une fête de la salsa. Tu sais, fait que finalement, ben, ça devait être très agréable, festif pour plusieurs communautés ensemble. Puis là, il y a des gens qui décident d'aller là, de régler leur compte. Tu sais, il y a été une époque où les criminels étaient très, très discrets dans leur règlement de compte. Là, il y a une audace, il y a un courage qui me déçoit et on devrait donner des leçons à ces gens-là au niveau des tribunaux, de dire, t'as osé faire ça, ben toi, on veut pas, ben on va te punir sévèrement. Ça, c'est pour les cas de Toronto. Aux États-Unis, ce qui me décourage un petit peu, c'est que des armes à feu, parce qu'il y en pleut partout. Là, ils vivent avec ça. Les armes à feu, c'est quasiment une business. C'est pas quasiment, c'est une business là-bas, là, tu sais.
Mais
Puis,
c'est
vois-tu,
inquiétant.
les
J'étais
policiers
allée en
de ICE,
Floride.
ben, on...
J'étais allée en Floride là, dans le mois dernier. Puis
Oui.
j'ai une amie qui s'est acheté une maison il y a plusieurs années en Floride. Fait qu'on est allé passer une petite semaine. On était deux filles. Puis une des remarques qu'elle m'a dit dans un quartier super sécuritaire, c'est que eux, ils réfléchissent là, à est-ce qu'ils vont en posséder une ou pas, parce que c'est un débat qu'ils n'ont pas au Québec. C'est pas une inquiétude qu'ils ont non plus ici dans la province. Mais quand tu es ailleurs dans un pays où que les lois sont différentes puis que presque tout le monde est armé, et tu viens qu'à avoir le cerveau qui va en ce sens-là, c'est un peu ce que tu
Complètement.
déplores.
Ta première porte de sortie va devenir l'utilisation de l'arme à feu parce qu'on te forme et on te prépare comme ça. Puis tu le dis, Pascal, dans certains États américains, c'est décourageant. J'ai des amis qui l'ont fait, là. Ils disent, sur l'heure du dîner, il y avait un meeting d'affaires, puis l'heure du dîner, on prend une pause. Ah, il nous reste du temps. Viens-t'en, on va aller à la salle de tir. Puis là, ils vont tirer, se pratiquer à tirer de tout, puis c'est super le fun pour eux autres, puis c'est cool. Mais là, tu tires des vraies armes à feu avec des très gros calibres à l'occasion. Alors, tu vois que ça, c'est rendu normal et standard pour plusieurs d'entre eux. C'est pour ça que la police, ICE, là-bas, à tort ou à raison, même s'ils sont, vois-tu, ils ont des caméras corporelles, on va en savoir plus un peu, ben là, ils ont fait feu sur quelqu'un. Puis, il faut comprendre aussi, il y a beaucoup de gens là-bas de l'immigration, suite aux politiques de M. Trump, qui s'en prennent tout de suite aux forces de l'ordre, là aussi, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on a à peu près pas d'informations, mais la condition des États-Unis, moi, t'as dit que je voudrais la garder un petit peu en dehors de ce qu'on vit au Canada ou au Québec. Mais, tristement, on est rendu trop lousse dans les armes à feu. Québec, Montréal, même ça, là, tu sais. On n'avait pas des armes à toutes nos perquisitions en ce moment. Puis je pense qu'à chacune des perquisitions importantes en matière stupéfiante que les enquêteurs, même de Québec, ont faites ces derniers temps, on a une arme d'imitation, une arme électrique, ou on a une arme d'opportunité que les gens ont faite. Puis quand ce n'est pas des armes à feu, tout simplement, là, c'est décourageant un peu en ce moment de voir qu'on a développé une culture de la violence autour des trafics de stupéfiants et de tout ce qui va avec.
Oui, parce qu'on a parlé des deux fusillades à Toronto, là, mais dans les dernières heures, on a appris qu'il y a une personne qui a été tuée aujourd'hui avec des
Oui.
tirs qui impliquaient des agents de la police fédérale puis de l'immigration ICE dans l'État du Maine. Puis c'est aussi ce qu'on commentait.
T'en parlais, Roger, qu'aux États-Unis, il y a une culture qui s'est installée au cours des dernières années, puis les événements de fusillade et tout, ça semblait. On semblait plus garder ça réservé pour les États-Unis. C'est-tu le phénomène qui se déplace vers les États-Unis?
En fait, sans dire que le
Vers
phénomène
le
se déplace,
Canada,
c'est
des
parce que.
États-Unis vers le Canada?
Oui, tu as raison, Mathias. Puis je comprenais très bien, là. C'est que ils produisent tellement d'armes là-bas qu'ils réussissent à nous en entrer. Puis les trafiquants, en ce moment, ici, nous autres, le port d'armes n'est pas permis, là. Tu sais, c'est uniquement des agents de la paix qui peuvent en avoir, puis dans des conditions très précises. Ou des chasseurs, puis des tireurs sportifs. C'est pas eux autres le problème, c'est qu'on en fait trop rentrer en ce moment et on a banalisé ça. Tu es capable d'en avoir trop facilement. Alors, tu crées des opportunités en ce moment pour nos tireurs de masse. Tu crées des opportunités. Puis, on a un peu loussé. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit, je le sais qu'on me dit, Roger, fais pas le parallèle trop fort. Excuse-moi, quand tu pratiques ces jeux vidéo, là, ben, tu te pratiques de la même façon que nos militaires le font. Puis, pour envoyer les gens, après, on les envoie vraiment le faire en vraie situation, mise en situation. Mais tu crées un petit chemin dans ta tête. Tu désensibilises ta personne. La dernière étape qui te reste après ça, Mathias, après avoir joué tes jeux, le Grand Theft Auto et j'en passe, là, puis que d'avoir volé le char de l'autre après, mais c'est de l'essayer pour vrai. Puis ça vient cool, puis ça crée une bonne dose d'adrénaline, là. C'est pour ça que je trouve ça triste. Les jeunes ont du guts. Je lisais en fin de semaine, peut-être qu'on va en parler après, d'Al Boivin. Ça a été un super athlète sportif, ce gars-là. C'était une machine de guerre dans son équipe de foot. Mais il a utilisé à mauvais escient son courage, puis son énergie, puis son guts. Je pense qu'il faut qu'on ramène aux jeunes la bonne place, puis qu'on leur dise tantôt l'appât du gain. Puis j'entendais Olivier Primeau avant vous tantôt. C'est pas vrai, ça prend du travail. Tu as des bons influenceurs, mais tes bons influenceurs, excuse-moi, ils travaillent en tabarnouche.
Ouais, ouais,
puis quand tu regardes tout ce qu'ils font pour faire, c'est pour ça que là, il y a des influenceurs qui ont créé une mode en disant « Tu vas devenir riche tout de suite, facilement. » Bien, ils l'ont fait chez les gangsters aussi. Les gangsters rap ont appris « Hey, tu peux devenir un gangster, rentre dans mon club, rentre-toi là-dedans. » C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Au contraire, ça, c'est ta vie. Là. C'est ça. C'est ta vie qui est en danger. Finalement, tu deviens un peu la chair à canon de ces gens-là.
Oui.
Au même titre qu'un influenceur peut devenir un peu l'outil de visibilité, mais sans nécessairement que tu puisses en vivre, mais que tu mettes beaucoup d'efforts là-dedans. Mais tu sais, effectivement, je voulais aller jaser dans le Boivin. C'était sur notre plan aujourd'hui de discussion parce qu'on fait plein de dossiers en ce moment dans les journaux suite à son arrestation du côté de l'Europe. Bon, le gars n'a pas été capable de résister à ses réseaux sociaux. On s'attend à ce qu'un enfant de 12 ans soit capable de le faire avec la dépendance aux réseaux sociaux. Depuis qu'il a été arrêté, on entend que là, il y a une gang qui ont un peu peur dans les prisons, une gang qui ont un peu peur à Québec parce que tout ce qui était les alliés de Picturmel ou ceux qui étaient ses apôtres, eh bien, ça a été démantelé ou en partie. Il y en a qui ont traversé et qui ont créé la North Savage Gang. C'est celle de Al Boivin. Là, les deux têtes dirigeantes de ces deux troupes ennemies-là sont arrêtées. Comment ça se passe? As-tu eu des échos de ça?
Un petit peu. Dans ce sens qu'au début, tout le monde était toute la gang contre le punch. Là, fait que les Hells Angels avaient le contrôle. On se met toute la gang. On est anti-Hells Angels. Mais au travers des gens qui sont anti-Hells Angels, il y a entre eux aussi des vols de territoire et des chicanes internes qui se font sans arrêt. Le BFM a de la misère à contrôler sa propre gang qui n'est pas très grosse. Mais au travers de ça, ben, Al Boivin a collaboré avec Picturmel. Ils se sont aidés sur des territoires, ils se sont aidés sur des jobs, ils se sont donné de l'information. Mais ça veut-tu dire aussi que je suis capable d'aller te voler? Tu sais, les secrets industriels qu'on a dans les entreprises puis les brevets que les gens font en entreprise, ils le font pour des raisons, pour protéger leur marché. Le milieu du crime organisé, lui, ils le prennent par la violence. Alors, en ce moment, c'est pas que les systèmes vont imploser, mais ces gangs-là se chicanent tous un petit peu entre elles. Ils veulent tous avoir une partie du gâteau, une partie de territoire, et ils vont devoir se battre pour protéger chacun leur petit royaume qu'ils veulent essayer de développer. Fait que va falloir Al Boivin qui ramène des guerriers s'il veut réussir à contrôler là-bas, parce que les Hells vont réussir à reprendre le parti. Mais pendant ce temps-là, les BFM profitent du temporaire vide et essayent de les bouffer. Mais ce qu'on a vu ces derniers jours dans les médias, tu en parles un peu, c'est qu'en prison, certains ont décidé « Hey, on veut notre wing à nous autres. » Je recommence, là, t'es un peu, t'es sur le banc de punition, chum. Tu devrais être en punition. C'est entre toi et moi. Attends ton tour, là. Puis les déjà assez difficile pour les agents correctionnels de gérer les petites chicanes d'égo qu'ils ont entre eux, puis la violence et tout le pseudo-pouvoir qui se donne, les drones et j'en passe. Colin, moi, je pense qu'on devrait... ils ont des droits, mais on devrait couper un petit peu sur leur rappeler qu'ils ont des devoirs et qu'ils ont également des obligations envers la société pendant qu'ils sont là.
Parce que la stratégie dans le domaine carcéral, c'est que les gangs ennemis ne se croisent pas. Ça facilite le travail des agents correctionnels.
Oui.
Mais ça crée un nouveau problème, c'est que ça donne du pouvoir à ces gangs-là. Ils travaillent à l'intérieur des murs, ils peaufinent leur violence. Puis en plus, ben, ils se décident comme étant les chefs de l'institution qui est la prison dans laquelle ils sont parce que ce sont des criminels. C'est capoté, là. Fait qu'on dirait qu'on on trouve plus la solution à tout ça.
C'est ça, puis c'est en plein ça. Puis tu sais, si on serait dans nature, là, ben il y a un équilibre naturel qui se fait. S'il y a trop de lièvres une saison, ben il va y avoir des bons renards puis des loups qui vont y manger. Puis après ça, les loups vont tomber affamés. Tu sais, en voulant dire, je veux pas qu'on vienne à la loi de la jungle, mais on pourrait peut-être laisser des fois certaines natures se faire un peu seules. Mais si on protège notre société au travers de ça, en voulant dire, mais là, on leur donne tellement de droits que là, ils deviennent puissants, ils ont du pouvoir. Puis ils décident ce qu'ils veulent manger pour souper à soir alors que c'est des enfants.
Merci beaucoup, Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. C'est toujours un bonheur de te parler.
Bonne journée à vous deux. Bye-bye.
Salut. Roger Ferland, il nous éclaire tout le temps sur un peu les choses qu'on n'a pas toutes les informations dans le domaine de la sécurité publique. C'est un gars qui a été énormément sur le terrain. Moi, je l'aime pour son franc-parler. Il l'a dit, si on revient au cas de la méthamphétamine dans la ville de Québec, qui est en hausse, pour lui, la limite a été atteinte. On comprend l'enjeu de santé publique avec les seringues, mais de distribuer les pipes à Crystal Meth, c'est là où sa limite a été atteinte. Il avait constaté beaucoup de choses dans son parcours d'ex-policier, d'ex-enquêteur. Et pour lui, là, c'est peut-être un petit peu trop faciliter les choses et ou offrir une possibilité de mettre de l'argent là où il ne faudrait pas, au lieu d'aider les gens à la source, que ce soit le loyer, que ce soit l'inclusion dans la société. Parce que tu en as plein des gens qui se retrouvent à la rue, que c'est pas parce qu'ils ont consommé, c'est qu'il est arrivé de bad luck dans leur vie, ou c'est des anciens de la DPJ qu'on a sacré dehors de leur domicile à 18 ans en disant « ben il n'y a plus de ressources, nous autres, puis arrange-toi quand l'enfant, parce que j'ai considéré encore enfant à 18 ans, tu étais encore un enfant à 18 ans, tout le monde l'était, a encore moins... » d'outils dans son sac à outils que nous, on en avait. Fait qu'imaginez, ça se peut que la solution, entre parenthèses, ce soit la rue pour eux pendant un moment.
Puis au moment où à partir du moment où tu es dans la rue, là, si on te facilite l'accès, tu as des influences près de toi qui consomment davantage, tu rentres dans un cercle vicieux, effectivement.
Il y en a qui te conseillent, Mathias, de faire attention en jouant à GTA, là, pas de devenir un petit criminel. Là,
ben oui, GTA 6 qui s'en vient, en plus.
Mais moi, tu sais, les endroits là, pour pratiquer son port d'armes ou encore pour la chasse, puis pratiquer ses tirs. Auparavant, j'étais allée, puis je me souviens là, tellement stressée là, de la première fois que j'allais tirer une arme. Puis j'étais allée avec un ancien, ben je pense qu'il est encore prof d'histoire, ici dans la ville de Québec, puis lui, c'est un collectionneur. Il collectionnait beaucoup d'armes des temps, des guerres ou encore de différentes époques. Puis une fois de temps en temps, il allait tirer de ça. C'était un sport pour lui avec ses amis. Et quand j'avais parlé à ces gens-là, ça faisait partie des gens qui respectaient toutes les règles là, au peigne fin. T'sais, tu peux pas partir de chez toi avec ton arme puis arrêter de chercher un café au McDo. Là. Tu pars de chez toi puis tu t'en vas au club de tir. Puis tu pars du club de tir, tu vas pas chercher ta fille à l'école, tu reviens à la maison. Il y a plein de règles, tes enregistres. Puis eux, c'était des valeureux citoyens. Ils respectaient absolument tout ce que le fédéral mettait sur leur table pour pratiquer leur sport, puis ils le faisaient d'une belle manière. Le problème, c'est toutes les imprimantes à 3D qui permettent justement de te faire un fusil, d'importer ce qu'il faut comme mécanisme pour tirer. C'est la possibilité d'en avoir un peu partout. C'est la hausse de la violence, l'appât du gain. C'est beaucoup autour de ça. Aux États-Unis, il y a une sacrée culture, mais qui a commencé à quelque part aussi, cette culture-là. Je trouve ça vraiment déplorable de constater ça. Puis en plus, bien, c'est vrai. À un moment donné, quand tu es désensibilisé, si tu vis un problème, si tu as des problèmes de santé mentale, si tu as de la frustration non canalisée, ça peut sortir comme des événements tragiques dont on vient de parler, comme les deux fusillades en 8 heures à Toronto. Une fusillade qui a fait 2 morts, 4 blessés, puis une autre dans le port de Toronto. Puis ce qu'on vient d'apprendre aussi du côté des États-Unis, c'est un cas où un agent de ICE a tiré sur une personne. Là. Il nous manque encore pas mal d'informations dans le dossier. Mais bon. Hey Mathias, on avait un gros problème de circulation du côté de Lévis. C'est-tu encore le cas?
Le problème de circulation est encore là. Puis je vais vous faire une petite histoire parce qu'il y a des choses qui se sont rajoutées au cours des dernières minutes. Il y a de ça quelques dizaines de minutes, la 20 direction Est, un peu après Chemin du Sault, c'était complètement fermé. Donc, hauteur kilomètre 316. Là, c'est réouvert. Les trois voies sont circulables, sauf que ça s'était cumulé. C'est très difficile. Donc, on a un ralentissement sur la 20 en direction Est qui remonte jusqu'à Lagueux. Puis, à partir du pont Pierre-Laporte, là, ça remonte jusqu'à Chemin Sainte-Foy là, sur Henri IV, direction Sud pour accéder au pont Pierre-Laporte. Ça avait créé un gros bordel. Les trois voies sont réouvertes, sauf que là, un peu avant, la voie du centre qui est bloquée pour le moment parce que quelqu'un est tombé en panne.
Ah non, pour ajouter à tout ça.
Ouais, exactement. Donc, c'était un parking pendant des longues minutes. Quelqu'un qui est tombé en panne, kilomètre 315. Donc, présentement, un peu après Chemin du Sault, kilomètre 315, la voie du centre qui est bloquée, mais la circulation qui est reprise dans la voie de gauche et la voie de droite. Donc, normalement, au cours des prochaines minutes, toute la difficulté de circulation qui s'est installée dans le secteur devrait se résorber.
Ce serait la bonne nouvelle parce qu'on s'annonçait pour un après-midi très difficile dans la circulation. Mais je vois encore les caméras du MTQ. Là, effectivement, il y a quand même une lourdeur au niveau des réseaux routiers. 418-971-1021, c'est la façon de nous rejoindre en studio. Ça nous fait plaisir d'avoir vos textos. Hein? On s'en en gang, on s'en en vacances avec vous ou encore au bureau. Si c'est votre cas puis vous êtes à l'écoute, 418-971-1021, je vous rappelle. On aime ça savoir vous êtes qui, vous faites quoi, pourquoi vous êtes avec nous. En fait, peu importe l'information, Mathias Turcotte et moi-même, Pascal Cévé, qui vous accompagne. On revient, puis on va parler du départ de Bonnardel. Pas juste de lui, pas juste de François Bonnardel, mais en gros, ce qui nous attend aux prochaines élections. Puis est-ce que c'est la fin de la coalition Avenir Québec telle qu'on l'a connue après un autre départ d'un monument comme celui de François Bonnardel? Les questions seront posées à Étienne-Alexandre Beauregard, chroniqueur politique, ancien rédacteur des discours de François Legault. S'il y en a un qui s'y connaît, c'est bien lui. Si vous avez des questions à lui poser, c'est toujours le même numéro de texto. Vous êtes à Boulevard 102.1.
Jusqu'à 14.